IDFM Radio Anguin, 98 de la Mande FM. Bonsoir à toutes et à tous, émission Au-delà du miroir. Avec plein de monde, enfin plein de personnes dans les studios d'IDFM. On va commencer par Christelle Séval, qui n'était pas vraiment prévu parce qu'il m'avait dit qu'il ne serait pas là, mais ce n'est pas grave, je suis vraiment contente qu'il soit là, parce que c'est l'éditeur des éditions Interkeltia, et qui nous a ramené deux auteurs. Christophe Alain, journal d'un éveil du troisième œil, ou 90 expériences d'un autodidacte du spirituel. Et puis Francis Bourcher, accepté de s'éveiller, rencontre avec son maître intérieur, tous les deux aux éditions Interkeltia. Alors, on va donner un peu la parole à Christelle.
Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, moi, je suis très, très heureux ce soir de faire la connaissance en chair en os de Christophe Alain et Francis Bourcher, parce que ça fait 18 mois qu'on communique par mail, quelquefois des petits coups de téléphone, mais voilà, c'était pour moi une rencontre très attendue ce soir. Et j'ai eu le contraire d'une surprise, c'est-à-dire j'ai eu la confirmation que ces gens sont bien comme je les avais décelés à travers leurs écrits. Voilà, donc sont des gens tout à fait authentiques, sincères, riches, et leurs livres reflètent exactement ce qu'ils font, ce qu'ils sont, leur personnalité.
Alors, ce sont deux auteurs qui viennent de loin, ils viennent du sud de la France. Par qui on commence ? Par Francis ?
Oui, volontiers.
Francis Bourcher, qui vient de Cassis.
Non, d'un petit village au-dessus de Cassis, qui est le Saint-Tropez de la région de Marseille. Et donc dans la région de Marseille, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à dire, voilà, j'y suis très bien et je suis content d'être venu sur Radio Anguin ce soir, d'avoir fait connaissance, alors on recommence dans le sens inverse, d'avoir fait connaissance d'abord de mon éditeur Christelle Jacques Seval, édition Interkeltia, et ensuite d'avoir rencontré aussi Christophe Alain, que je connaissais à travers son blog et son livre. Et donc, on avait projeté de se rencontrer un jour, on a laissé faire, on a lâché prise, on a laissé faire, et les choses se sont faites telles que nous sommes tous là aujourd'hui. Voilà.
Alors, Christophe Alain.
Oui, ben bonjour, donc Christophe Alain de Marseille, donc, alias le lutin fou, bon, pas ce problème. Voilà, bon, ben, donc effectivement, je suis assez content, c'est une expérience nouvelle pour moi, une radio, donc cette expérience-là est très intéressante. Là, je suis content de rencontrer mon éditeur qu'effectivement on ne se connaissait que par mail, mais ça me confirme aussi ce que j'avais pensé donc de toi, donc que tu es quelqu'un d'authentique aussi, donc, et qui me convient bien sur on est assez sur la même longueur d'onde, je pense, sur certaines choses, quoi, sur le monde. Et donc Francis, avec qui on a déjà pas mal échangé et où on a des expériences un peu similaires, disons, dans le développement spirituel, même si chacun vit les choses différemment, hein, bien évidemment. Mais bon, je pense qu'il y a des choses intéressantes à partager, donc voilà, je suis assez content d'être ici ce soir.
Alors, vous vous êtes rencontrés dans le train, tous les deux ?
Voilà, on s'est donné rendez-vous à la gare d'Aubagne, à côté de Marseille, et on n'a pas vu le trajet passer.
On a un peu parlé un petit peu blabla.
Le problème que nous avons, c'est que nous sommes tous les deux très bavards, voilà. Et donc on s'est promis de faire attention, à laisser tant de paroles à l'un et à l'autre.
Voilà, pour pas s'embarquer pendant des heures, parce que voilà. Sinon, c'est très vite fait.
Alors, vos deux livres sont complémentaires. Hein. Il y en a un, c'est Journal d'un éveil du troisième œil. Ben, de quoi ça parle ? On peut repartir sur Christophe ?
Alors, comme je décris simplement, j'ai eu un éveil de Kundalini, donc une transformation complète de mes perceptions à 23 ans. Donc, le monde pour moi est devenu un océan d'énergie, en plus de la matière. Hein. C'était une perception supplémentaire. Tout s'est transformé, j'étais obligé donc de me poser des questions, hein, parce que j'étais mis face à des expériences quotidiennes tellement puissantes que donc j'étais obligé d'évoluer. Pendant des années, j'ai travaillé donc avec mon meilleur ami qui était qui avait les mêmes ressentis que moi, donc c'est plus facile de voir les problèmes des autres, hein. Donc en gros, je regardais ses problèmes, il regardait les miens, et à nous deux, c'était plus facile de garder les pieds sur terre puis d'évoluer. Et puis un jour, j'ai décidé d'écrire un blog pour commencer à relater mes expériences, d'abord tout ce qu'on avait vécu, puis les choses au quotidien, dans le but d'abord simplement de dire, s'il y a d'autres personnes à qui ça arrive, le plus difficile quand ça nous arrive, ces choses-là, c'est qu'on cherche des références et on tombe soit sur des livres hyper compliqués, on comprend rien, hein, pas le premier mot, où les gars ils sont complètement dans l'espace ou sur des niveaux d'évolution qu'on peut pas comprendre où on en est nous, soit sur des gens qui nous prennent pour des fous, soit sur des gens où on se dit eux vraiment ils disjonctent quoi, ou c'est nous qui le prenons pour des fous. Donc c'est très difficile de trouver un référentiel sur les perceptions par le troisième œil, donc des perceptions qui sont multidimensionnelles, extrasensorielles par tous les sens et qui peuvent aller très loin, hein. Et le seul moyen pour moi de les relater sans rentrer dans des, sans essayer de sortir des vérités absolues, ce qui est impossible dans le monde relatif, bon, c'était de décrire les expériences telles que je les vivais simplement, de dire bon ben voilà, moi c'est comme ça que je vis les choses, hein. Donc c'est un journal parce que je décris simplement les choses au quotidien, telles que j'ai vécu mes expériences d'évolution, hein. C'est quotidiennement on met face à des expériences pour nous montrer nos problèmes et puis les évoluer, quoi, voilà, simplement.
La question que je voulais poser, c'est tout le monde ça n'a pas envie de vivre ces expériences. Pourquoi avoir eu envie de vivre de telles expériences? Rester une heure et demie à regarder le plafond, tout le monde le fait.
Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est un moment dans la vie qu'on se retrouve bloqué dans son évolution. C'est-à-dire qu'il faut avoir une grosse souffrance, hein, pour rentrer là-dedans. C'est une époque où bon, il fallait rentrer dans la vie. Moi, j'avais 23 ans. J'étais structuré de telle sorte, maintenant je le sais, hein, mentalement, je ne pouvais pas rentrer. Donc j'avais choix, soit je mourais. Ce qui est la solution que quand on peut plus évoluer, on meurt et on choisit un autre corps, un autre esprit, on continue d'évoluer ailleurs. Soit je faisais quelque chose de radical. Et à ce moment-là, c'est la seule chose qui m'apportait du réconfort et un bien-être total. Hein. Je fixais mon mur, c'était le top, quoi. J'y allais pas parce que j'avais envie de. J'avais même pas qu'on pouvait développer quoi que ce soit avec. Hein. Je faut le dire ce qu'il y a. J'étais totalement athée. Je croyais en rien à part l'argent. Enfin moi c'est mon éducation, hein. Un métier, de l'argent, voilà. Bon, je voulais pas rentrer là-dedans. Et pour moi, il y avait rien d'autre. Bon.
C'est des gens du sud, ils parlent beaucoup avec les marins.
Voilà, pardon, c'est vrai. C'est...
Mais ça s'entend.
Voilà, comme ça, les sourds-muets peuvent suivre.
Alors, et le copain de l'histoire, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que
Je suis toujours en contact avec lui, c'est mon, lui, là, c'est l'un de mes meilleurs amis.
Il a continué à évoluer ou à un moment?
On travaille toujours en parallèle, on travaille en miroir. Hein. Donc, quand il m'appelle pour ses problèmes, je l'aide à voir ses problèmes. Et généralement, j'ai le même en miroir derrière. Donc, quand je l'aide, j'évolue. C'est toujours comme ça, mais c'est pareil pour tous les gens. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent des mails. Bon, je donne mon ressenti, hein, directement. Et généralement, je m'aperçois que j'ai le même problème, quoi. Ça ne rate jamais. Mmh. On est toujours en échange. Hein. Le monde, c'est un partage. Hein. C'est constant.
Alors, un livre sur lequel on va revenir par la suite. Donc, Journal d'un éveil du troisième œil. Un livre qui ne passe pas inaperçu quand on est dans le RER. Puisque la couverture est très...
Un bel œil.
Un beau troisième œil immense dans une tête un peu futuriste. Hein. Donc, je vous assure que vous ne passez pas inaperçu. Quand vous lisez ça, vous êtes obligé de voir la couverture que les gens regardent. Et le deuxième, Accepter de s'éveiller, donc Francis Bourcher. Vous, comment vous, c'est aussi un... Enfin, toi, parce que je crois qu'on a commencé à se tutoyer. Toi, c'est aussi ta vie. Alors moi, je te disais une vie de guérisseur et tu m'as dit non, je ne veux pas que je sois un guérisseur.
Non, je ne suis pas guérisseur. J'ai touché à tout. Enfin, je vais un peu le raconter. Mais je ne suis pas spécialement guérisseur. Je n'ai pas fait de guérison. J'ai stimulé l'auto-guérison de certains individus. Mais je n'ai pas guéri. J'ai permis aux personnes de s'auto-guérir. Et ça, beaucoup de guérisseurs devraient employer cette expression-là. Ne pas avoir la prétention d'avoir guéri quelqu'un. J'ai stimulé l'auto-guérison. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais je ne suis pas guérisseur. D'ailleurs, j'ai fait plein de choses. Moi-même, d'ailleurs, on a discuté avec Christophe dans le train. J'ai dit, je ne sais toujours pas qui je suis. Bon, je vais relater. À 45 ans, donc tardivement par rapport à toi, Alain, à 45 ans, le 10 octobre 91, j'étais commercial en cosmétique. J'étais assis au volant de ma voiture, j'attendais qu'une cliente ouvre son institut, et j'ai eu l'impression que le sommet de mon crâne s'ouvrait. J'ai même entendu un petit craquement. Bon, chose étonnante, ça ne m'a pas fait peur, puisque ce n'était pas douloureux. En même temps, j'ai senti un courant, comme un courant électrique qui descendait dans mon crâne, et qui tournait autour de mon crâne. Ensuite, ce point, le troisième œil d'ailleurs, qui illustre bien le livre de Christophe, à cet endroit-là, ça s'est mis à remuer. Alors, j'ai regardé dans le rétro, je vous raconte comme je l'ai vécu à l'époque. Hein. J'avais donc aucune connaissance, aucune spiritualité particulière, aucune religion, mais disons une éthique de vie assez rigoureuse, assez honnête, etc., plutôt honnête. Donc, j'ai commencé à regarder dans le rétro et j'ai vu qu'à cet endroit-là, il y avait un mouvement. Je me suis même dit, tiens, je vais peut-être avoir un furoncle. Obligé, n'ayant pas de connaissances. Et donc, ça continuait, c'était pas désagréable, je comprenais pas trop. J'ai franchi le seuil de l'institut de ma cliente, le phénomène s'est arrêté. à tel point que j'ai pu rester une heure à prendre commande. J'avais complètement oublié ce phénomène. Je suis ressorti. Dès que j'ai franchi le seuil, le phénomène a repris. Et sur mes 4-5 rendez-vous de l'après-midi, ça s'est produit comme ceci. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, je vis un truc étrange. C'est irrationnel, mais c'est intelligent parce que ça respecte mon travail. C'est pas gênant, c'est pas douloureux, c'est agréable. Alors que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de mon intérieur, j'en sais encore rien, mais disons que je vis un truc intéressant. Et dans les jours qui ont suivi, il ne se passait pas une journée sans que je vive un phénomène, une expérience phénoménale. À tel point que les amis et la famille avaient pris l'habitude d'attendre la rentrée de mes journées de travail, de mes tournées, pour nous dire, qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui. Voilà.
Et alors ça, c'est un peu raconté dans votre livre, hein,
enfin, ben voilà, livre. Simplement, j'ai fait comme Christophe, j'ai fait une chose. D'abord, j'ai commencé à écrire dans des forums de spiritualité, parce que je voulais faire partager et comprendre, lire les expériences des autres. Ensuite, je me suis dit, tiens, j'écris beaucoup d'articles, ce serait intéressant. L'époque des blogs est arrivée. Je me suis dit, plutôt que de débattre dans les forums, j'en avais un peu assez de débattre avec certaines personnes. Je me suis dit, je vais faire mon blog et je vais raconter toutes mes expériences et réflexions spirituelles, puisque je les ai déjà écrites pour les forums. Et ensuite, j'ai croisé la route de Christelle et on en a fait un livre. Voilà. Voilà le parcours.
Alors, ça se traduisait comment ? Il y avait donc un chakra coronal, c'est-à-dire le chakra de la tête qui s'était ouvert. Troisième œil aussi. Ça s'est traduit par quoi en plus ?
Mais ça s'est traduit par beaucoup de choses, parce qu'en l'espace de 3-4 mois, j'ai vécu tous les grands phénomènes. D'ailleurs, j'étais incapable de mettre un vocabulaire sur ces phénomènes, n'ayant aucune formation spirituelle, religieuse ou quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à raconter, d'ailleurs je raconte dans mon livre ou dans mon blog, je raconte brut de décoffrage, c'est-à-dire avec le vocabulaire de l'époque. Bon, maintenant, après 19 ans, ça fait 19 ans que ça dure, donc maintenant je sais mettre des mots. Donc j'ai commencé à lire des livres, à regarder un peu, et j'ai compris que c'était arrivé à d'autres personnes, et que ça arrivait toujours. L'étonnant, c'est que en l'espace, on va dire, de 3-4 mois, j'ai vécu tous les grands phénomènes. Sortie du corps dans cette dimension, sortie du corps dans l'astral, une sortie que j'ai racontée tout à l'heure dans le TGV à Christophe, une sortie dans le plan mental, une seule mais fabuleuse, et tout ça pas en dormant, assis, en méditation, pas en rêve ni en dormant. Des personnes m'ont vu en face d'elles alors que je méditais pour les aider, elles m'ont vu en plein jour en face d'elles. D'ailleurs, ce qui était étonnant dans ce cas-là, c'est pas qu'elles me voient en face d'elles, que je sois en face d'elles, c'est qu'elles me voient. La première était en méditation, la deuxième était sous médicaments, sous tranquillisants, et la troisième était en train de s'endormir. Donc, je vous dis, le plus étonnant, c'était d'avoir été vu, pas d'être à un endroit précis. Donc, j'ai vécu tout ça, et je le raconte dans mon livre, dans mon blog, sous le titre « Expérience et réflexion spirituelle ». Voilà, on va passer la parole.
On va repartir sur notre journal d'un éveil du troisième œil, Christophe Alain. Donc là, c'est pas quelque chose pour Christophe qui est arrivé tout seul. Tu l'as cherché.
Mais je ne savais pas que ça pouvait donner ça. Ouais. Moi, j'étais bien, je méditais. Je me suis aperçu simplement la première méditation que je pouvais méditer 4 heures. Bon, c'est tout. Hein. Y a des phases. Hein. Pendant la méditation, il y a une phase entre. On commence à être paralysé, on a une sensation d'accélération, hein, on rentre dans une notion de voyage astral. Et moi, j'ai peur de quitter mon corps. Ah. Parce que j'ai plus de mal à rentrer. Enfin, je vais dire autrement. Je suis partout en même temps, c'est plus simple. Sur le dimensionnel. C'est-à-dire que j'ai plusieurs niveaux de perception. Mais constants. C'est-à-dire pour moi, là, je suis là, puis il y a l'énergie de la pièce, et puis je peux percevoir d'autres choses, suivant ce que j'ai envie de regarder. Mais c'est pas quelque chose qui se fait aléatoirement. C'est parce que là, il y a cette peur de quitter le centre. Donc j'ai jamais pu vivre des choses où on dit, bah, je laisse mon corps, puis je m'en vais. Et ensuite, on rentre dans des phases où on approche tellement près du sommeil. Qu'on rentre dans des rêves aussi réels que la réalité.
Des rêves éveillés.
Mais ce qui est marrant, c'est que moi je vivais le moment où je basculais dans le rêve. Ce qui fait que je pouvais revenir dans la réalité juste avant, puis retourner, quoi. C'était assez marrant. Bon, j'ai vu quelques trucs. Et ça fait très relativiser, hein, parce qu'on est dans la réalité comme là, puis d'un coup, bah, y a tous les objets de la pièce qui se mettent à voler. Et puis on fait juste un mouvement, puis hop, tout redevient comme avant. Donc on voit que vraiment le rêve et la réalité sont exactement la même chose, que la différence n'est pas si évidente que ça. Voilà.
Donc c'était dans les années 91 aussi ?
Ouais, c'est ça, dans à peu près la même période.
C'est marrant, hein, comment
j'avais 23 ans. On a quoi.
Ben, ça correspond à des montées d'évolution de la planète. Hein. Comme je dis, on est dans des phases d'évolution très puissantes. Bon, 90, c'est vrai que c'est l'époque où ça a commencé, mais c'était encore un peu tôt pour parler de ces choses-là. Il y avait moins d'écoute. Depuis 2000, on est rentré quand même dans des phases. Bon, on n'est plus dans les mêmes niveaux du tout, quoi. Donc forcément, il y a plus de réceptivité. Les gens ont plus de clarté d'esprit, hein, simplement. Avant, ils étaient enfermés dans des schémas mentaux. C'était impossible de rentrer là-dedans. Hein. On touchait toujours que des blessures émotionnelles et les gens ils hurlaient. On disait un mot, tout le monde hurlait, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui sortent de sous le tapis, donc les gens le vivent pas forcément bien. Mais on est dans des phases où la clarté d'esprit quand même s'installe chez les gens et où il y a un discernement qui commence tout doucement à poindre, même s'il n'est pas évident. Voilà.
Et on est invité dans des émissions de radio.
Ce qui était impensable avec un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai écrit mon blog, je me disais, je vais me faire insulter. Et je me disais, bon, c'est pas grave, s'il y a 3 personnes à qui c'est arrivé, qu'ils lisent et qu'ils se reconnaissent, bon, ils trouveront peut-être une information.
Voilà. Alors, Christelle, je crois que son livre, il a bien plu. Hein.
Oui, alors, je vais raconter un petit peu le contexte et l'histoire. Il y a 18 mois, quand je suis tombé sur le blog de Christophe Alain, voilà comment ça s'est passé. C'est que moi, je venais de créer cette petite maison d'édition, Interkeltia, qui avait seulement 6 mois. Et vous savez, quand vous êtes un jeune éditeur, les écrivains, les auteurs ne se présentent pas à vous. Hein. Ça marche pas, parce que personne ne vous connaît, vous n'avez pas encore publié de livre. Donc, vous êtes un inconnu. Donc, vous êtes obligé d'aller vous-même chercher les manuscrits, d'aller à la pêche. Mmh. Et je suis content, j'ai ramené 2 gros poissons.
Merci.
Et ça s'est fait tout simplement par un enchaînement de connaissances, hein, de fils qui se sont déroulés tout naturellement. C'est-à-dire que le premier fil pour moi, ça a été André Jacques Holbeck, parce que j'avais beaucoup travaillé sur le dossier Humo, et André Jacques Holbeck aussi, on était en relation, et André Jacques travaille aussi à côté beaucoup sur l'économie, la finance, et dans ses groupes de travail, il avait une jeune femme qui était une passionnée, qui avait aussi beaucoup de choses à dire donc sur la refondation de l'économie, qui s'appelle Marie Martin Pécheux, qui habite Nice. Et donc André Jacques m'a mis en contact avec Marie en me disant, voilà, elle a des choses, elle a des manuscrits, ça peut-être t'intéresser. Effectivement, elle a eu 2 livres que j'ai publiés, un livre de science-fiction qui en fait se passe dans 50 ans et qui raconte l'histoire de cette nouvelle économie utopique qui est en place. C'est un merveilleux livre de vulgarisation. Et à côté de ça, un livre d'économie où là vraiment c'est un livre sérieux, enfin je dis sérieux, c'est plutôt un livre technique, voilà, où elle parle de ses travaux et de sa vision d'une économie future plus axée sur le partage, la solidarité. Et c'est Marie Martin qui, de temps en temps, me donnait des pistes comme ça, en me disant, va voir ça, c'est pas mal, va voir ce blog, c'est pas mal. Et elle m'a donné comme ça le lien sur le blog de Christophe Alain. Là, effectivement, j'ai lu une partie du blog et j'ai tout de suite pris contact avec Christophe en lui demandant si ça l'intéressait pas d'être édité, parce que ce qu'il écrivait me surprenait beaucoup, dans le sens où pour moi, ça tranchait avec la littérature spirituelle ordinaire, où on a souvent soit des théoriciens, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment vécu ce qu'ils racontent et que c'est très littéraire, et donc ça serait assez déconnecté de la réalité. À côté de ça, il y a des expérienceurs, ça il y en a pas mal, mais les expérienceurs classiques, quoi, c'est-à-dire des channelisations ou des médiums. Voilà, Christophe, lui, ça se situait complètement ailleurs et ça regroupait plusieurs qualités que j'adore, c'est-à-dire beaucoup d'humour.
Ah, c'est important.
Hein. Oui, ça c'est important.
C'est quand même très important.
C'est important.
Des expériences. C'était vraiment. C'est pour ça que ça s'appelle aussi 90 expériences d'un autodidacte du spirituel. Et moi, ça m'a fasciné son histoire parce qu'il est parti de rien, dans le sens où il était athée, il croyait en rien et il savait pas du tout ce qui lui arrivait. Il croyait devenir fou. Et tout d'un coup, il a vécu toutes ces choses et il a pensé qu'à essayer de comprendre ce qui lui arrivait, essayer de domestiquer ses perceptions et essayer de clarifier cette nouvelle perception de l'univers et du monde. Donc c'était un parcours qui sort de l'ordinaire, parce que je pense qu'on pourrait en parler tout à l'heure. Christophe, il va parler des lutins, des elfes, des
archanges. C'est pas du tout ufologique, hein, voilà, parce que Christelle Serra est plus connue pour son côté. Non, mais pas dans le livre, hein, c'est pas du tout un livre.
Cette partie-là, non, mais j'ai eu quelques expériences avec.
Voilà, mais c'est pas du tout un livre sur. C'est plutôt un livre sur la nature, les esprits de la nature, mais enfin sur tout ce qui est. Mais c'est important de le dire parce qu'on pourrait penser
bien sûr, effectivement,
qu'on va dans ce milieu-là, puisque ton éditeur est quand même très réputé pour être un passionné d'ufologie.
Oui, ben, au départ, il n'était pas question que je publie des livres d'ufologie parce que mon éditeur à moi, qui est Jean-Michel Grandcyr, JMG Édition, le faisait très bien. Il le fait d'ailleurs toujours très bien. Sauf que la force des choses a fait que je me suis rendu compte que j'arrivais pas vraiment à rendre les livres de science-fiction à les rendre rentables, parce que c'est assez compliqué, alors que les livres de spiritualité finalement fonctionnaient mieux.
C'est bizarre ça.
Oui,
parce qu'on pourrait penser quand même que bon, il y a un côté drôle dans la science-fiction.
Je croyais qu'il y avait un côté tout public. En fait, non, parce que les jeunes aujourd'hui ne lisent plus. Ils regardent des films où ils jouent à des jeux électroniques, mais ils lisent plus. Donc en fait, ça souffre d'un manque de lecteurs jeunes à la base.
Et il faut comprendre aussi que la spiritualité, ça va intéresser soit des gens qui vivent une expérience. Or, quand on commence à interroger les gens, on s'aperçoit que tout le monde a forcément vécu une expérience qu'il n'a pas pu expliquer. Donc il va se retrouver forcément à aller chercher dans les bouquins. Moi, c'est ce que je disais. Au départ, je passais en rigolant devant les bouquins de la FNAC, Rayon ésotérique. Je disais, bon, ils sont tous fous. Puis après, j'y allais, je peux vous dire, je l'ai bouffé, les livres. Et quand quelqu'un vit quelque chose, et tout le monde vit forcément un petit truc, hein, il va se tourner vers là. Et comme on est dans une période où d'évolution énorme, où toutes les dimensions sont compactées très très proches, hein, on accède à tout très facilement, le temps est accéléré. Avant, un chaman, pour contacter un esprit, il fallait qu'il fume un pétard de 3 km de long. Hein. Aujourd'hui, n'importe qui, il suffit d'y aller. Quoi. C'est parce qu'on est très très proche, hein. C'est très facile d'accès. Donc, il y a beaucoup de gens du coup qui vont vivre des expériences spirituelles sans pouvoir mettre de mots dessus. Ils vont pas trouver de réponse forcément dans la religion. Bon, s'ils sont dans la religion, peut-être qu'ils vont suivre cette voie-là. Mais s'ils n'ont pas de réponse dans la religion, puis qu'ils n'ont pas de réponse satisfaisante, ils vont forcément se tourner vers les expériences des autres. Ça a été mon réflexe, moi, hein, puisque j'étais athée, donc pas athée au sens où on le dit, c'est-à-dire pour moi, bon, je me posais même pas la question. Puis les religions, de toute façon, c'est quelque chose que j'avais une éducation où c'était écarté d'entrée, donc je pouvais pas aller par là, quoi. Je pouvais pas aller voir un curé, hein, moi, je suis voir un psy. Hein.
Le psy, c'est le curé du XXe siècle.
C'est le curé de la science, hein, quelque part. Enfin, peut-être pas. Faut dire ce qui est. Donc c'était mon éducation, donc je suis allé voir un psy. Bon.
Le lecteur de science-fiction se tourne volontiers maintenant vers le spirituel phénoménal. C'est-à-dire que le lecteur de science-fiction aime bien, si vous voulez, le phénoménal de la spiritualité. Ça lui apporte un peu les mêmes sensations. C'est toujours du phénoménal, mais par contre, il est conscient que c'est raconté par des gens qui l'ont vécu. Tandis que la science-fiction reste la science-fiction.
Ben non, il y a quand même des gens qui ont vécu des phénomènes un peu bizarres.
Oui, mais pas dans leur corps, comme ça. Oui, ceux qui ont été enlevés, etc. Voilà. Oui. Mais ça peut être le même lecteur de science-fiction, à mon avis, est intéressé par les livres de spiritualité également.
Je ne sais pas. En tout cas, maintenant, j'ai ouvert une collection d'ufologie. J'ai viens de publier un premier livre, et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me passionne, et il y a de la place pour plusieurs éditeurs en France en ufologie, et Jean-Michel Grancy reste un grand ami.
Mais il semblerait que l'ufologie, donc il y a quand même beaucoup moins de personnes qui s'y intéressent. Alors pourquoi dans les années 90-91 il y a eu cette ouverture de conscience sur la spiritualité, et l'ufologie c'est plutôt un moment où ça a décliné, puisqu'il y a eu des grands phénomènes ovni.
Non, là, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas confondre science-fiction et ufologie. D'ailleurs, c'est deux publics très différents. Le public de science-fiction ne veut absolument pas s'intéresser aux choses soi-disant réelles, à la réalité. Il fuit la réalité, il se réfugie dans l'imaginaire. Et je me suis rendu compte que c'était des publics totalement séparés par une frontière très épaisse. L'ufologie, bon, on peut pas dire que ça va mieux ou ça va moins bien. En tout cas, elle est toujours là, elle est toujours présente. Je veux dire, il y a toujours des manifestations, il y en a partout dans le monde. Encore en ce moment, là, cette semaine, il y a un aéroport chinois qui a été fermé pendant presque une journée et où les gens ont pris des photos d'un truc dans le ciel incroyable. Donc c'est toujours présent.
D'accord, bah, ça rassure. Enfin, là, on n'est pas dans une émission d'ufologie, on est plutôt dans une émission de spiritualité.
C'est des choses proches, hein, quand même, je le dis. La spiritualité, enfin, moi, l'extraterrestre, on peut connecter ces énergies, on peut aller discuter avec toutes sortes.
Tu peux aller.
oui, quand on a le troisième œil. Parce que j'ai expliqué à un clairvoyant, il choisit d'aller regarder où il veut. Bon, c'est pas forcément judicieux parce qu'il y a toutes sortes. On va dire de. Mais qu'est-ce que c'est? En fin de compte, quand on évolue spirituellement, quand on travaille sur l'évolution, on s'aperçoit que tous les problèmes espace-temps vont tourner autour d'énergie extraterrestre. Pourquoi? Parce que c'est notre civilisation dans notre espace-temps. Et à la fois, tout est ici. Donc, c'est des êtres. Il faut bien comprendre que des êtres plus évolués que nous, des futurs potentiels, viennent des fois visiter leur passé pour voir ce qu'ils peuvent faire, pour faire, nous faire évoluer. Et ça, c'est réel. Hein. Après. On le perçoit ou on le perçoit pas, c'est des êtres souvent qui sont dans des dimensions au-dessus de nous, donc avant de les trouver sur un écran radar, il va falloir se lever tôt le matin, parce que il faudrait déjà percevoir que la trois dimensions, c'est très léger. Hein. On est des fourmis à côté d'un aéroport. La Terre, c'est quand même un lieu où il y a des portails espace-temps, des trucs énormes. Quoi. Dès qu'on commence à regarder dans les niveaux énergétiques, bon, si on s'intéresse à ça, c'est vrai que c'est pas mon truc, moi je veux pas trop au niveau extraterrestre parce que j'en ai très peur. C'est des énergies que j'aime pas connecter parce que. Pourquoi? Parce que j'ai des souvenirs de vie extraterrestre et ça c'est gênant. Et on dit, il y a des choses, on n'a pas envie d'y aller, hein. On va rester sur la Terre, c'est bien. Voilà, donc quand on se réveille, ou à un moment je suis accompagné de toute façon par une énergie comme ça. Alors je dis énergie parce que ça évite d'éveiller des blessures émotionnelles chez les gens, c'est plus simple, hein, mais c'est des gens aussi, hein, ils ont une conscience. Hein. Voilà, bon, ben, y en a un, il m'envoie des images de son monde, c'est pas comme chez nous, hein. C'est sûr. Bon, mais qu'est-ce qu'on est? On est quand même face, il faut bien comprendre que malgré tout, on est face à d'autres espaces-temps. Hein. Et les gens qui ont des expériences avec les extraterrestres sont des gens qui ont quelque chose à résoudre avec l'espace-temps, en termes d'évolution. Ils ont mis face à ces expériences pour se poser des questions face au futur potentiel et au passé. Hein, voilà, c'est des choses comme ça. Bon, ça, c'est les infos que j'ai eues moi sur ça. Voilà.
On va faire une pause, on va laisser un peu digérer ceux qui nous écoutent. Nous retrouvons nos intervenants, là, ils sont nombreux. Christelle Séval, le directeur de cette collection Interkeltia, et puis Christophe Alain qu'on a entendu tout à l'heure pour le journal d'un éveil du troisième homme, du troisième œil. On va revenir un peu avec Francis Bourcher, avec son livre « Accepter de s'éveiller, rencontre avec son maître intérieur ». Donc il nous a expliqué, si vous avez bien suivi, qu'il lui est arrivé des choses invraisemblables en 91. Il était à l'époque, c'était un homme qui vivait avec une cravate, enfin, assorti à ses chaussettes, ce qu'il m'a raconté tout à l'heure. C'est... Très très bonne mémoire, finalement, j'écoute tout. Donc imaginez-le avec son attaché-caisse, aller voir ses clients, et d'un seul coup, il a craque dans la tête, et il se passe des choses. On lui laisse quand même le loisir de faire sa vie, c'est d'aller voir ses clients, il se passe plein de trucs, et donc il va chercher un peu partout. Et il trouve quoi? La théosophie. C'est ça, c'est la théosophie que tu as trouvé tout de suite.
Non, la théosophie, quand toutes ces choses me sont arrivées, je ne savais pas mettre un nom là-dessus, je n'avais pas de vocabulaire d'ailleurs. Dans mon livre, dans mon blog, je raconte une histoire sur l'extase qui est assez amusante, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc je n'avais pas de vocabulaire, alors je prenais le vocabulaire qui me venait, courant électrique, machin, je n'avais pas le vrai vocabulaire. Et comme par hasard, le hasard n'existant pas, j'ai rencontré une personne qui travaille au CNRS de Marseille, qui est une théosophe, et qui m'a écouté attentivement et qui m'a expliqué qu'avec sa formation de théosophe, elle m'a donné beaucoup d'explications. Ça a été une des premières explications. Donc j'aime bien la théosophie. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser dans la théosophie, mais il y a un enseignement qui me plaît bien. Voilà.
D'accord.
Mais je ne suis pas un théosophe. Disons qu'elle m'a apporté des explications et un vocabulaire.
Surtout. Voilà. Et donc, le mot chakra, par exemple, toutes ces choses-là, tu connaissais déjà avant
91? Non, je ne connaissais rien. C'est pour ça, si vous voulez, mon parcours est atypique. C'est que je ne connaissais rien. Je ne m'intéressais pas à la spiritualité. Et tout ce qui m'est arrivé, je n'avais aucun vocabulaire à mettre dessus. Donc, si vous voulez, ça m'est arrivé, il a fallu que je découvre un peu découvre comment ça, si c'était déjà arrivé à d'autres personnes, etc. Par contre, je resterai, on a parlé tout à l'heure d'ufologie, de science-fiction, bon, c'était un petit aparté. Personnellement, je resterai sur les possibilités de l'homme et de son anatomie, ce que j'appelle l'anatomie occulte de l'homme. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'on était une poupée russe, c'est-à-dire nous sommes des êtres multidimensionnels. Seulement, on ne nous l'a jamais appris, on ne le sait pas, on ne le croit pas. Et alors, nous avons des possibilités, nous sommes une poupée russe avec plusieurs corps, et nous avons des possibilités d'accès à différentes dimensions. Et plus on évolue spirituellement dans l'incarnation présente, et plus ces possibilités, je n'emploie jamais le mot don ni le mot faculté, j'ai horreur de ces deux mots.
Pour moi,
nous avons tous des possibilités identiques, et elles vont s'éveiller au fur et à mesure de notre progression spirituelle dans cette incarnation. Donc, en réalité, nous ne sommes pas égaux à la naissance. Nous sommes égaux devant les lois des hommes. Bon, là, il y aura beaucoup à dire. Hein. Mais nous ne sommes pas égaux à la naissance, ce serait une injustice. On arrive avec un bagage spirituel, donc avec un niveau spirituel qui est en fonction du comportement dans nos vies antérieures, avec une sorte de valise bonus-malus. Et ensuite, c'est pour ça que nous sommes des êtres différents, qu'il faut avoir une grande tolérance, nous sommes à des étapes spirituelles différentes, mais nous avons tous au fond de nous ces possibilités qui, à mon avis, se réveillent un jour ou l'autre. En fonction de notre comportement spirituel.
Mais oui, mais en ce qui te concerne, tu n'avais rien demandé.
J'avais rien demandé, mais enfin, il faut dire quand même une chose. Deux mois avant, au mois d'août et au mois de septembre, j'ai un ami qui a été atteint d'un cancer généralisé assez rapide, on ne s'y attendait pas. Et je me suis quand même surpris au chevet de cet ami à vouloir donner ma vie en échange de son rétablissement. Moi qui avais une famille, deux enfants, mariés, mais sans réfléchir, à un moment donné, j'ai dit, je donne ma vie. Moi qui ne prie pas, qui ne suis pas religieux, j'ai dit, je donne ma vie en échange. J'ai recommencé, ça c'était en août 91, septembre 91, j'ai été amené, je ne vous raconte pas l'histoire, c'est pas spécialement intéressant, mais j'ai été amené au chevet d'une jeune fille qui était atteinte d'une maladie, Nadia, à Lyon, qui était atteinte d'une maladie terrible, c'était devenu un légume. Et je me suis surpris, alors là c'était pas mon meilleur ami, c'était une inconnue. J'ai fait la même chose, j'ai dit cette jeune fille en pleine santé qui se retrouve comme un légume, je donne ma vie, accepter de prendre ma vie en échange de sa santé. Bon, après j'ai oublié, j'ai continué de travailler, et là, 10 octobre 91, donc quelques mois après, quelques semaines après, cet éveil. Je pense que les deux, et Alain nous en parlera peut-être, pardon, Christophe, c'est le fait d'avoir un prénom, un non-prénom. Christophe nous expliquera peut-être le lien, mais je ne sais pas.
Je dise la vérité ou... Non, il faut que je dise. Ouais.
Non, mais je pense que les deux choses sont liées. On n'a pas besoin d'être religieux pour avoir un éveil.
Oui, et voilà. Bon, après, moi, je vais aller. Alors, il y a beaucoup de niveaux. Quand on nettoie, on monte un. Au début, comme je disais, on nettoie l'émotionnel, on nettoie le mental.
Oui, mais ça, tu parles, les gens qui t'écoutent, on nettoie quoi ? On nettoie la cuisine,
On fait un éveil de Kundalini comme ça, parce que c'est un éveil de Kundalini qui est décrit.
Bah, la Kundalini, tu peux rappeler un peu ce que c'est quand même.
C'est l'éveil des énergies sexuelles, hein, tout simplement, qui s'inverse et qui monte vers le haut. Hein.
D'accord, mais est-ce que tu l'as demandé ou est-ce que ça s'est fait tout seul ?
Non, ça se fait parce que, après, quand tu poses la question, on te répond ce que je t'ai dit. Hein, c'est quand tu es bloqué, que tu ne peux plus évoluer dans l'expérience que tu as à vivre, il y a deux choix, c'est soit tu meurs. Soit tu vis une expérience radicale pour t'obliger à changer de comportement. Et c'est un peu ce que je te disais. Nous, on a un commun, on a besoin de faire l'expérience de la solidarité, hein, pour plein de raisons. Moi, parce que j'ai un karma pourri, lui, parce que j'ai tout fait. Je trouvais des catastrophes dans tous les sens. Hein, et à un moment, si tu fais pas cette expérience, on va essayer soit de te faire trouver un nouveau corps, soit on va dire, bon, on arrête tout, puis tu t'incarnes ailleurs, hein, pour trouver un meilleur choix pour vivre cette expérience, soit on t'oblige vraiment à t'ouvrir, quoi. Bon. Et c'est un peu ce que tu as vécu quand même, ce que je disais, il y a un moment, tu étais un peu égaré du point de vue du haut, donc le haut,
ce n'est pas un hasard, le hasard n'existe pas vraiment. Voilà. Ce n'est pas une chance non plus. Il y a deux mots auxquels je ne crois plus, c'est chance et hasard.
Ah non, mais il ne faut pas rêver. Hein. Voilà. C'est des choses qui sont très très difficiles à vivre. Les gens, ils veulent ils voient que le côté fun, quoi. Mais c'est des choses qui sont abominables.
Oui, alors,
du jour au lendemain, vous avez une perception du corps qui n'est plus la même. Il y a des trucs pas possibles qui vous traversent tout le temps. Dès que vous voyez tous les champs électromagnétiques, vous passez en ville, vous ramassez des merdes dans tous les sens. C'est des choses qui sont très très dures à vivre, surtout quand vous savez pas ce que c'est. Puis il y a des bestioles qui vous montent partout, vous discutez avec.
Ok, bon, mais pourquoi toi et pas les autres alors ? C'est pas quelque chose qui tombe sur tout le monde.
C'est comme j'expliquais, on était face à des expériences, on pouvait plus vivre notre vie. on pouvait plus vivre notre vie sous cet aspect. On était obligé à un moment d'évoluer. Après, c'est vrai qu'aussi il y a une question de karma, il y a une question. On récupère des choses qu'on a obtenues. Il y a des gens qui se réveillent directement à l'étape du Bouddha, hein, parce que c'est une continuité. Comme je dis, on vient avec un gros bagage quand même derrière. L'homme a toute une évolution à vivre. Et on se réveille à un moment donné à un niveau d'évolution qu'on avait déjà atteint, parce que on retrouve son karma, on va trouver son karma. Quand je dis karma, alors je vais parler autrement, on retrouve plein d'histoires qui nous tournent autour, avec des vies, des trucs dans lesquels on rentre, hein, avec beaucoup de puissance, des souvenirs qui sont pas humains des fois, qui sont humains des fois. Et ces bouts d'histoires qui nous tournent autour, qui sont accrochés à nous, correspondent à des expériences où on a développé toutes ces choses-là, et où en fait compte, on se réveille un matin en n'en ayant plus besoin, mais on les a, quoi. C'est le sorcier, lui, il rêvait que de ça, il a passé sa vie à faire ça. Le moine bouddhiste, on retrouve des karmas comme ça, hein. Le moine bouddhiste, il passait sa vie à méditer pour savoir méditer, et l'informaticien qui en a rien à faire, il se retrouve avec la somme du travail du sorcier et du moine bouddhiste, bon, qui l'a rien demandé. Mais parce que lui, il a autre chose à faire avec.
Je suis d'accord, mais t'as pas dit non plus, hein. T'as accepté de jouer le jeu. Hein.
Parce que c'était
Il a accepté de s'éveiller.
Alors, quand ça arrive, effectivement. Après, on est mis face à un choix, c'est ce que je lui disais. Moi, ça a été très radical. C'est soit le choix de la peur, soit le choix de l'amour. Mais avec une puissance, hein. C'est-à-dire, je croisais les gens dans la rue, j'avais le goût du sang de la personne dans la bouche, je me voyais en train de le tuer, et d'avoir le goût de son sang, c'était jouissif en plus, hein. Et on me disait, voilà, t'as le choix, ça c'est le niveau animal, si tu veux, tu peux y aller. Et puis, il n'y a pas de jugement, hein, sur ces choses-là. Et l'autre côté, on disait, ben voilà, tu es fou, tu es dans la dualité, donc tout le monde est fou, dans le sens où, dans la dualité, on est obligé d'oublier ce qu'on est. Donc, forcément, on ne voit pas le réel. Ce que tu vois, c'est un reflet de toi-même, le monde que tu vois n'est que ton propre reflet. Si tu veux, on t'aide à évoluer, donc choisis. Ben, le choix, il a été fait, on a le libre arbitre. Bon, moi j'ai dit, bon, ça je l'ai trop fait, à droite, on va aller à gauche, ça a l'air plus sympa. En plus, bon, bouffer des gens, finalement, ça a l'air fun comme ça, mais c'est peut-être pas une... j'ai peut-être pas envie de me faire une vie de tueur psychopathe. Donc, bon, j'ai choisi l'autre voie, puis bon, après, ben, on va te faire évoluer maintenant, tu vas être mis face à ce que tu es. Et c'est là que, bon, commencent toutes ces étapes d'évolution où il y a des hauts et des bas, parce qu'on est mis face à plein de choses. Après, on peut voir ces choses sur plein de niveaux, comme je disais, parce qu'à un moment, on connecte... donc, on va nettoyer le niveau émotionnel, on va trouver toutes nos blessures émotionnelles sous la forme soit extérieure, soit intérieure. Hein. On peut rencontrer des démons. Hein. Des démons, c'est quoi? C'est nos blessures émotionnelles manifestées. On va monter à un niveau mental, on va rencontrer nos structures mentales, on va y voir celles des autres. Hein. Ce qu'on voit sur soi, on le voit sur les autres. On va rencontrer des égrégores, qui est les égrégores, bon Dieu, il n'y a que ça. Hein. Dans notre monde, on est dans un monde purement mental. Entre les institutions et les égrégores qui nous tournent autour, il y a que de ça. C'est que des névroses, c'est des névroses géantes en fin de compte, hein, qui sont là. Et quand on passe au-dessus de ça, on va commencer à connecter le monde spirituel. Pour moi, ça a été simple. Je le ressentais autour de mon corps jusqu'à une certaine distance. Et quand j'ai connecté le spirituel, j'ai commencé à sentir l'infini. C'est-à-dire que je me sentais plus de distance. J'étais dans un endroit où la distance n'avait pas de sens. C'est le moment où j'ai vraiment ouvert le niveau spirituel. Et là encore, il y a tout un cheminement qui passe de la forme au sans forme. Bon, on peut monter très haut et à la fin, bon, on rencontre des nœuds très puissants au niveau du cœur qui bloquent des accès. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'vacuité. Et l'vacuité, c'est quoi? C'est le nirvana. Hein. C'est toutes les jouissances et toutes les vérités au même endroit. Bon, donc on peut monter sur tous ces niveaux. Les gens vont vivre cette évolution par des hauts et des bas très puissants. Ils vont être mis face. La part divine va les obliger à rencontrer. Moi, les lutins, au départ, je veux dire, ça me faisait pas rêver. Hein. On me dit, vous êtes druide. À dire ça à un informaticien, c'est. Dire si on pouvait pas me dire quelque chose qui soit le plus à comprendre toi.
Hein, c'est druide, pas... surtout lutin aussi. Hein.
Et bon, un lutin, pas forcément lutin, mais c'est vrai que j'ai toujours eu plus d'affinité avec les lutins. À ce moment-là, quand je commençais à discuter avec, moi je les aimais bien, ça faisait du bon, et c'était sympa.
Ils ont de l'humour.
Des fois, on connecte un village complet, c'est rigolo, parce que ça fuse dans tous les sens, c'est bon. Bon, c'est rigolo, moi j'aimais bien ces énergies, ces gens aussi, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est tous des énergies qui ont une conscience, hein. Et eux, c'est pareil, hein. Ils ont des rôles à jouer sur la nature pour faire pousser les plantes et tout. C'est des énergies de la nature, hein. S'ils sont pas là, les plantes, elles poussent pas, hein. Mais en même temps, ils ont une conscience, ils ont une vie et ils se perçoivent. Nous, on a une structure mentale en trois dimensions qui nous montre un monde en trois dimensions où ils perçoivent les choses totalement différemment. Mais ils ont une vie aussi. Après, ces niveaux-là étaient intéressants. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'était des niveaux que je méprisais. J'ai le lutin, moi. Et ouais, mais tu vas voir qu'un lutin, tu peux apprendre beaucoup de choses avec un lutin. Et finalement, effectivement, un brin d'herbe ou un archange, en fin de compte, s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Hein. Donc tout a quelque chose à enseigner. Voilà.
D'accord, ça peut peut-être paraître un peu compliqué. On va revenir
pardon,
sur des choses.
Hein.
C'est pas grave. Ouais. C'est pas
on
grave.
Va alterner. Je vais faire plus simple, avec des expériences peut-être plus simples. Et comme ça, on...
Non, mais oui, c'est intéressant non, mais... parce que justement,
notre... Moi, je me régale à t'écouter, j'avoue que je suis là.
Non, mais c'est vrai que bon, je des fois, ouais. Bon, voilà, vas-y.
On est resté 4 heures dans le TGV, 4 heures au moins, à discuter. Et ouais. Il y a une dame qui était devant qui a dit, bon, les hommes, finalement, vous êtes très bavards. Elle nous a demandé de nous taire un peu. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est mis en méditation, chacun de notre côté, pendant une heure. Elle a été tranquille. Voilà. Ouais. Elle, bon, moi, je vois pas du lutin, voilà, non, mais j'ai rien
contre.
Je veux dire, non, c'est pour ça, on s'est régalé à discuter ensemble, parce que on a un parcours, je pense qu'on va dans la même direction, avec un parcours totalement différent. Mmh. Et c'est ça qui est agréable, c'est qu'on a pris plaisir à s'écouter mutuellement. Et je pense qu'on va essayer même de, j'aime pas le mot travailler, je vais mettre des guillemets, de se rencontrer de nouveau, dans la nature notamment, et de voir un peu, de montrer chacun les possibilités à l'autre.
Oui, parce que t'es géologue.
Faire un échange de possibilités.
Toi, tu cherches aussi avec...
Moi, je cherche dans l'homme, hein, je cherche pas trop dans
l'extérieur. Oui, mais dans la nature, t'as cherché des pièces. Comme les lutins d'ailleurs, c'est les lutins ou les lutins, c'est qui cherche les pièces d'or?
C'est la prochaine qui a le tonneau d'or, là, ça, c'est l'arc-en-ciel.
Ça, c'est une passion que j'ai à côté.
Oui, mais quelque part, t'as un côté, tu vois,
je cherche.
Alors, tu cherchais avec quoi? Tes pièces d'or avec un pendule, avec tes mains?
Non, je cherche avec un détecteur de métaux, tout simplement. Voilà, je cherche dans les domaines des personnes, avec leur autorisation. Voilà, ça, c'est autre chose. Je suis passionné depuis l'âge de 8 ans, puisque j'ai vécu en Tunisie. Je passais mes vacances à Carthage. Je suis passionné par les monnaies impériales romaines. Bon, c'est un autre sujet. Et depuis ma retraite, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, je me suis mis à les chercher moi-même. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai cette passion.
Et en trouver. C'est ça le...
Et en trouver, mais enfin, on en trouve. Oui. Mais par contre, on ne me verra jamais sur une plage à chercher les euros des touristes ou les bijoux. Hein. Il y a deux catégories. Des fois, on me dit, oh, pourquoi vous n'allez pas sur les plages? Ben, je dis, c'est l'histoire qui m'intéresse, ce n'est pas les bijoux des touristes hein, ou alors les euros. Donc, c'est deux catégories de prospecteur. Bon,
mais
on va revenir.
Mais il y a ce côté de géobiologie, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui est enfoui en dessous, caché, ouais. Avec d'une manière. Voilà. Donc reviens sur ton sujet.
Bon, mon sujet.
Je
reviens à ça. Moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est ayant expérimenté dans mon propre corps des phénomènes, donc dans l'ordre vision de l'aura énergétique. Je précise aura énergétique parce qu'il y a plusieurs auras en fonction de nos différents corps. Bon, je perçois facilement, et c'est à la portée de tout le monde. Ici, il y a une personne qui pourra en témoigner, qui a fait l'expérience, qui est là à assister à l'émission, Adeline. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. La vision de l'aura énergétique est perçue par les animaux, notamment par les chats. Je crois que c'est une possibilité, j'emploie toujours ce terme, que nous avions avant. Nous avions un homme préhistorique sentait le gibier à des kilomètres, voyait, pouvait sentir un danger. Pourquoi il sentait un danger? Parce qu'il arrive à distinguer l'aura énergétique et même l'aura émotionnelle de ses adversaires. Donc c'est des perceptions que nous avons perdues, je vais dire, à cause du progrès. J'ai rien contre le progrès. Mais on a perdu ces perceptions que nous avons tous. Donc je reviens à ça. Ce sont des possibilités que nous avons tous et que nous pouvons retrouver et développer si nous le voulons et par un comportement de spiritualité, de recherche. Voilà. Donc tout le monde a ces mêmes possibilités. Donc j'ai commencé à avoir l'aura énergétique, j'ai commencé à sortir de mon corps dans 3 dimensions. Ensuite on m'a vu en face des personnes, j'ai pratiqué la méditation pour aider des personnes qui m'ont vu en face d'elles en plein jour.
C'est le nom d'ubiquité, ça.
Voilà, exactement. Voilà. Et en réalité, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, ce qui était anormal... ce qui était anormal, après j'ai enquêté, c'était pas qu'on me voit. Quand on se concentre sur quelqu'un, on peut se déplacer, sortir de son corps et aller à la rencontre de la personne. Ce qui était anormal, c'est que ces 3 personnes m'ont vu. Alors j'ai enquêté. La première était en méditation, donc favorable à ce genre de vision. La deuxième était sous calmant, donc elle était un peu shootée, on va dire. Et la troisième était en train de s'endormir. Donc c'était 3 cas où les personnes, je dirais, avaient le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elles étaient sur 2 dimensions. Voilà, c'est-à-dire, dans cette dimension, elles étaient déjà dans l'éthérique. C'est-à-dire que, attention, l'éthérique, c'est toujours notre monde, avec les mêmes, avec la notion de temps et de distance identique. C'est pas l'astral, ça c'est autre chose. Donc ces personnes-là m'ont vu parce que c'était anormal qu'elles me voient. Que je sois devant elles, c'est une chose, mais c'était anormal qu'elles me voient. Donc,
mais elles t'ont vu combien de temps? Une fraction de seconde, non?
Ah, elles m'ont vu. Il y a eu même une discussion télépathique avec une qui ensuite m'a appelé. Elle m'a dit, Francis, je deviens folle, Brigitte, t'étais en face de moi et tout ça. Alors que moi, j'étais allongé et j'étais sorti de mon corps et je la voyais, mais je pensais que c'était une image mentale. Et je lui ai parlé, je lui ai envoyé de l'énergie parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et quand elle m'a téléphoné, c'est ça qui est fabuleux, parce que j'aurais pu penser que c'était une image mentale que j'avais créée et tout. Quand elle m'a téléphoné en me disant, sachant pas que j'étais en méditation sur elle, façon de parler, pour elle. Donc elle m'a dit, je t'ai vu en plein soleil, en face de moi, t'étais lumineux, tu as fait le tour, c'est exactement ce que j'ai fait, tu as fait le tour. Tu as posé tes mains sur mes épaules et j'ai senti un bien-être fabuleux. À partir de ce jour-là, sa santé est allée beaucoup mieux. Voilà, je raconte ça comme je l'ai vécu.
Et c'est pas être un guérisseur, ça, non, pas du tout.
Comment ? Hein.
On n'a pas affaire à un guérisseur, loin de là.
Non, non, parce que j'ai pas, j'en discutais avec Christophe, je lui dis non, j'ai touché à tout, il y a plein de choses, vous lirez dans mon livre, dans mon blog, Adeline me fait des petits signes. Oh, mais, j'ai une possibilité particulière, très particulière, je suis pas du tout médium. Mais j'ai une possibilité particulière, c'est que je me mets à côté de quelqu'un qui a besoin, qui a perdu un être cher, je prends cet exemple. Mais attention, toujours, je fais toujours ça, jamais pour l'argent. Je fais toujours ça quand la personne a vraiment besoin de mon aide. Pas de spectacle et pas d'argent. Mais j'ai une possibilité qui est assez amusante, tu pourras peut-être nous en parler. Je me mets à côté de quelqu'un, je lui donne un bloc et un stylo. Simplement, en étant à côté, je peux l'utiliser comme téléphone avec l'être cher disparu ou d'autres entités. C'est un domaine qu'il faut connaître parce que derrière, il y a du monde. Alors, il n'y a pas notre monde et un monde invisible. Il y a des dimensions avec beaucoup de locataires de plus ou moins de bonnes intentions. Voilà.
Alors, tu dis qu'elle fait un téléphone, c'est-à-dire qu'il y a une écriture automatique. Comment ça se passe ? C'est toi qui reçois, tu canalises ?
C'est-à-dire que... Non, je ne canalise pas. J'ai besoin d'un canal. Voilà, j'ai besoin d'un canal. Mais cette possibilité que j'ai, c'est que je peux prendre quasiment n'importe qui. Si la personne a besoin d'être aidée, a besoin de communiquer avec un être cher qui est parti, etc., je vais lui développer en premier temps l'écriture automatique, simplement en le voulant. Mais c'est elle qui va écrire. Et elle va devenir mon téléphone, c'est-à-dire qu'elle ne va pas questionner si on a affaire à une entité ou à un être disparu. Elle va, cet être disparu va discuter avec moi, pas avec la personne qui écrit. Et il m'a été possible également, quand ça devient donc mon canal, il m'a été possible aussi quand mon canal était d'accord, en le prévenant avant, de faire poser le stylo et de demander l'autorisation d'utiliser son corps. À ce moment-là, ses cordes vocales sont utilisées par l'entité qui va dialoguer avec moi. Mais c'est assez impressionnant, parce que si par exemple j'ai une jeune fille comme Adeline qui est présente et qu'on a un bonhomme qui traîne, une amérante un peu bourrue, etc., Adeline va avoir une grosse voix et c'est plutôt effrayant. C'est effrayant parce que quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Mais sinon, pour moi, c'est devenu irrationnel.
Mais est-ce que Adeline, donc, qui serait devenue le personnage qui est canalisé, se souvient après de ce qu'elle a dit ?
Ah, totalement, totalement. Non, non, elle n'est pas en hypnose ni rien. Hein. Elle est totalement lucide. Si elle veut intervenir en disant j'aimerais poser cette question, je vais poser la question. Mais elle est totalement, totalement lucide. Hein. C'est pas de l'hypnose. Voilà. Et par contre, je suis incapable, si une fois j'ai cherché, alors pendant des années, je me suis dit j'aimerais bien écrire également, j'ai pris le stylo pendant des heures.
L'écriture automatique.
Voilà, l'écriture automatique.
Ça marche pas pour tout le monde. Ça a marché ou pas ?
Non, non, mais pour moi, ça marche pas. Par contre, ça marche pour les personnes à qui je le fais. Je développe, mais je n'écris pas. Si une fois, alors une fois, je suis amateur de tableaux impressionnistes, et une fois, j'ai dessiné un profil tout à fait dans le style de Toulouse-Lautrec. Moi qui ne sais absolument pas dessiner, je l'ai gardé. J'ai dessiné un visage de femme avec une chevelure. On aurait dit un dessin de Toulouse-Lautrec. C'est tout ce que j'ai fait en écriture automatique. Quoi.
Oui, je vais parler de mon point de vue à moi. On ne va pas aborder la question. Effectivement, tu as besoin de faire une expérience de solidarité. C'est ce que je t'expliquais. C'est une manière comme une autre, si tu veux, d'être solidaire. Hein, si tu mets l'outil à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu es obligé de côtoyer quelqu'un. Hein. Moi, je l'ai vécu avec un miroir. C'est-à-dire que j'aide quelqu'un et mon problème se résout en inverse. Hein. C'est aussi simple que ça. Ça marche toujours comme ça. C'est quand quelqu'un se présente avec un problème, généralement... moi, je fonctionne sur l'inconscient et le subconscient. Donc, c'est différent. J'ai des informations qui sont de plus en plus claires. Hein, donc, c'est beaucoup plus facile maintenant. J'ai l'information. Donc, j'ai les mots à dire à la personne et puis c'est terminé. C'est terminé, ça permet de faire bouger l'énergie que la personne a besoin de faire bouger pour évoluer, quoi. Hein. C'est cette idée-là, parce que je suis dans une logique d'évolution spirituelle, pas de guérisseur non plus, parce que je suis passé par cette phase, ce que je lui expliquais. C'est au départ, on a le sorcier, bon, il faut le dépasser, parce que sinon, parce qu'on s'aperçoit, hein, l'énergie des gens, on peut la manipuler, hein, c'est pas très compliqué, les peurs des gens, on les voit, les trucs, bon, il suffit d'aller là où il y a la faille dans l'armure, hein, lui, la peur, on va bouger un peu la peur, on va lui envoyer un petit truc qui va un peu le booster, et puis c'est parti, hein, et puis on peut arriver très loin, hein, comme ça, hein, on arrive à des résultats, bon. Le problème, c'est qu'on fait ça, on se prend un retour automatiquement, quoi. Que si c'est pas dans cette vie, c'est dans l'autre. Moi, c'était dans les vies d'avant. Donc, j'ai eu tous les retours avant. Et voilà, si tu, bon, ça te fait un karma un peu pourri quand même, bon. Et puis c'est des choses, on s'aperçoit qu'en fin de compte, quand on crée de la séparation, on se sépare soi-même, on brise le miroir, hein. Le monde, c'est un miroir brisé. Soit on essaie de recoller les morceaux pour retourner à l'unité, soit on brise encore plus les morceaux, hein. Quand on tue quelqu'un, on fait quoi ? On coupe notre âme en morceaux, hein ? On coupe le miroir en morceaux, en réalité. Quand on s'attaque à quelqu'un, on fait ça. Donc il y a cette expérience de sorcier qui doit accepter que c'est pas l'ego qui commande le divin, mais le divin qui commande l'ego. Et elle est très dure à dépasser, hein ? Ça se passe sur beaucoup de vies, parce que plus on a de pouvoir, plus c'est facile, hein ? Et à un moment, bon, donc on doit dépasser ça. Puis il y a le guérisseur qui est en fait le pendant exact du sorcier, qui fait exactement la même chose, mais en inversé, hein ? Et lui aussi, il faut le dépasser, parce qu'à un moment, on s'aperçoit que alors, c'est ça qui est difficile à accepter, hein, mais toutes les victimes et tous les bourreaux sont consentants, hein. En fin de compte, à un niveau inconscient et subconscient. Donc les personnes n'en ont pas conscience. Mais c'est une manière, être victime, c'est une manière de prendre le pouvoir. C'est malheureux, mais c'est ce qui est caché derrière, hein. Et donc, à partir de là, la victime est consentante. Donc, parce qu'on ne peut rien faire à personne sans son accord, hein. Ni Dieu ni diable, hein. Personne ne peut vous affecter. Quelque chose vous emmerde, vous lui dites tu t'en vas, c'est mon choix, et s'en va, hein. Parce que on a le libre arbitre et on a tous les choix. Et le problème, c'est simplement que souvent, ça se passe à des niveaux inconscients et subconscients cachés. Donc les gens n'en ont pas conscience. Déjà qu'en plus, on est enfermé dans des armures émotionnelles et mentales abominables dans notre société. Accéder à ces niveaux-là, c'est un petit peu voilà, difficile. Bon.
Ce que j'essaie de lui dire, c'est qu'il vient du Sud et qu'il parle vite. Hein.
Pardon. Voilà. Donc tout ça pour expliquer que, en fait, c'est ce qu'il dit. On provoque une auto-guérison. La personne a besoin de vivre l'expérience de la guérison parce que cette blessure lui servait. On peut parler avec une blessure, raconte des choses. Hein. C'était une expérience. Hein. Le corps, il s'exprime différemment de l'esprit. Hein. Lui, il s'exprime en se blessant. Hein. Cette blessure lui a permis de vivre une expérience. Elle en a plus besoin. Elle a besoin. Elle soit va prendre un comprimé, ça marche pareil. Hein. Le comprimé du médecin. En fin de compte, on considère que ça marche, ben ça marche. Et on fait venir la personne en face qui est capable de manipuler l'énergie parce qu'on est d'accord pour qu'elle le fasse. Et c'est un commun accord. La personne qui a besoin de vivre l'expérience du guérisseur et celle qui a besoin de vivre la guérison. Et c'est un partage en réalité. Et c'est la même chose entre la victime et le bourreau. Hein.
Ce que tu expliques bien dans ton livre, c'est que n'importe qui peut se guérir tout seul aussi. Hein.
Et ben, quand on commence à voir les niveaux, on s'aperçoit que tout le monde est déjà là. C'est ça qui est super frustrant. On se dit, putain, je débloque plein de capacités. Puis on regarde, on fait, mais ils en envoient tous partout de l'énergie, qu'est-ce qu'ils font? C'est moi, je viens à peine de le percevoir, mais c'était mon premier réflexe. Je disais dans le métro, putain, il y a de l'énergie dans tous les sens. Lui, il en balance à droite, lui à gauche, ils arrêtent pas de communiquer. Et ils font tous déjà, et moi je le faisais pas. C'est le premier réflexe, hein. Et puis après, on se dit, non, mais c'est inconscient chez eux. Moi, je le vois, mais eux, ils le voient pas qu'ils font. Et quand on arrive à des niveaux carrément où on passe au sans-forme, hein, on perçoit l'esprit, vraiment les esprits divins des gens, on dit, mais c'est tous des anges, quoi. C'est tous des esprits divins. Et ils voient tout ça, on discute à ces niveaux-là. Ah, bah, il vous explique, bah voilà, nous on vit cette expérience, faut pas que tu viennes, hein, parce que sinon on va devoir recommencer, donc. Ou alors, ben, non, c'est pas à toi de faire ça, c'est un autre, bon, ok. Moi, avec les morts au départ, c'était pareil, hein. Je discutais avec les morts, je disais, bon, allez, on les fait tous monter dans la lumière, on fait un petit tunnel de lumière, où on appelle, on discute avec, et c'est quoi ton problème, bon, voilà.
Exactement, faut discuter, faut dialoguer.
Voilà, parce que c'est des choses à résoudre.
De faire l'exorciste, de
voilà, c'est une collaboration, même avec un mort.
Voilà, une chose, j'ai pas rencontré d'âme mauvaise, on va parler des âmes errantes. Je n'ai jamais rencontré d'âme mauvaise, j'ai rencontré des âmes malheureuses et qui se comportaient mal parce qu'elles étaient malheureuses. À partir du moment où on installe un dialogue avec de la sincérité, de l'amour, qu'on montre ses compétences, parce qu'attention, une âme errante qui est dans une dimension pas tellement éloignée de nous n'en sait pas plus que nous. Je vais même dire une chose, un abruti qui meurt, ça reste un abruti de l'autre côté. Donc, si vous voulez, il suffit de dialoguer, de comprendre ses problèmes, de lui expliquer qu'il n'est pas au bon endroit, de lui expliquer... Là, le commercial revient, hein, totalement. C'est-à-dire de lui expliquer, mais avec une sincérité et du vécu, de lui expliquer... Il va sentir, d'ailleurs, cette sincérité. Il va même lire l'aura et voir que que ça dégage quelque chose, qu'on est crédible. Et à ce moment-là, il suffit de l'expliquer qu'il n'est pas au bon endroit. Alors souvent, j'ai eu des amérantes qui me disent « Oui, mais moi, je me suis donné le rôle de, d'ange gardien de mon frère, de ma belle-sœur, etc. Je suis là, je vais le protéger, etc. » c'est une âme qui est de l'autre côté, qui était ignorante de son vivant et qui reste ignorante de l'autre côté, dans l'invisible. Elle n'en sait pas plus parce qu'elle est de l'autre côté. Simplement, à ce moment-là, puisque ayant la connaissance, il suffit de l'éduquer, de dialoguer avec beaucoup d'amour, et on voit qu'à ce moment-là, elle se calme, et il y a cette possibilité d'être convaincant et de l'envoyer à la lumière. Une âme errante va perturber la vie de la personne qui reste. Elle se donne le rôle d'ange gardien, d'ailleurs on me dit souvent « je suis devenu son ange gardien », se donne ce titre, et je dis « mais qu'est-ce que tu as fait alors, donc, puisque tu es son ange gardien, ça fait des années que tu traînes, qu'est-ce que tu as fait pour la personne que tu aimes et qui reste incarnée ?»« Ah ben j'essaie, mais je vais y arriver. » Jamais réussi, c'est logique, elle ne peut rien faire. Alors mon argument c'est de lui dire, et qui est la vérité, monte à la lumière, à ce moment-là, à la lumière, pendant le sommeil profond de la personne qui est restée incarnée et que tu aimes, tu vas l'appeler. Elle va sortir de son corps, elle va te rejoindre. Et même si c'est un sommeil, le fameux sommeil de 10 minutes, un quart d'heure, le sommeil profond, tu vas pouvoir rester des heures avec elle parce que tu es dans un espace-temps où le temps ne se déroule pas de la même façon. Et à ce moment-là, tu vas retrouver ta connaissance et tu vas pouvoir l'aider vraiment. Ça restera enfui dans son subconscient, elle retournera dans son corps et à ce moment-là, elle fera bon usage de ton enseignement. Voilà, c'est des arguments qu'il faut donner et c'est une réalité.
Oui, non, mais bon, moi j'ai eu des expériences un peu similaires, donc je suis assez d'accord.
Ouais, je vais faire une pause.
Pardon, oui.
C'est un peu. Il faut quand même que ça digère.
Ah, pardon.
Ok.
Bon, nous on y va cache.
On se retrouve tout de suite après 1h47. Donc UDFM 98 de la bande FM, c'est la dernière partie de cette émission de la du miroir avec Joël derrière le micro et derrière les commandes et puis Christelle Séval.
Oui, Séval.
Séval, qui est donc le directeur de la nouvelle collection qui s'appelle Interkeltia.
Enfin, c'est le nom de la maison d'édition Interkeltia et j'en profite pour préciser que à la rentrée, ça va s'appeler les éditions Atlante.
Ah ben voilà, ça sera plus facile à dire.
Ah, un scoop pour nous aussi.
Très très bien. Alors, et donc pour l'instant, c'est Interkeltia et les futurs Atlantes. Francis Bourchier venait de nous parler un peu de ces histoires de lumière, de monde, de mort, de gens qui sont restés coincés, qui semblent aider ceux qui sont restés en bas. Enfin, ça c'était intéressant. Moi je pense que c'est vrai qu'on en parle souvent sur cette émission. Mais c'était intéressant de. Et donc, tu fais aussi le même travail, toi, Christophe.
Alors, j'ai fait un moment, mais après, je me suis fait engueuler. Parce qu'au-dessus, il m'a dit attends, mais s'il est là, c'est qu'il a quelque chose à apprendre ici aussi.
Oui.
Donc,
qui est celui qui est resté entre les deux ?
Bien sûr, celui qui est entre les deux. Alors, maintenant, je vais vous donner, avec du recul et une certaine vision de choses, un point de vue simple hein, sur ces choses-là. Quand on est mort, on est dans le monde spirituel. On n'a pas de corps, mais on a accès à l'omnipotence. Donc, à partir de la vacuité, on va créer on va créer en fait de la connaissance, du savoir, des idées, et ensuite on va aller s'incarner pour les vivre. Donc, l'alternance de la mort et de la vie, c'est le jeu de l'humain hein, quand même. Hein, c'est pas le jeu des lutins, des archanges ou quoi. C'est le jeu de l'humain. Hein. C'est on crée des vérités et ensuite on s'incarne pour les vivre. Ce qui se passe, c'est que le vivant, il est là pour vivre la vérité qu'il a déjà, enfin, en fait, qu'il crée en même temps, hein, parce que le temps n'est pas linéaire, ça. Bon, mais là, on va être un peu compliqué. Il a celui qui est désincarné au-dessus, donc celui du dessus qui lui a accès à toutes les connaissances et qui lui fait jouer le jeu. Et lui, il joue le jeu qu'on lui fait jouer. Et qu'est-ce qui se passe? Le médium et le fantôme vont rencontrer la même problématique. Il y a une pulsion de vie, il y a une pulsion de mort. Il y a un temps, la nuit, le jour, hein, un temps dans le monde spirituel pour créer ses vérités, et un temps pour les vivre en étant dans la matière. Le médium, il va connecter le monde spirituel de son vivant, et le fantôme, il va essayer de connecter la vie de son vivant. Donc c'est des gens, enfin c'est des êtres, des gens, parce que c'est des gens, hein, c'est pas parce qu'il est mort que c'est pas. Je disais, l'oncle Paul, il est mort, ben c'est toujours l'oncle Paul, hein, il est toujours là. Hein. Je veux dire, c'est des gens aussi, toujours pareil. Vous allez discuter avec, son problème, c'est que lui, il a envie d'un corps, quoi. Il dit, mais là, maintenant, toi, tu montes dans le monde spirituel, tu auras accès à toutes les connaissances, mais tu peux pas avoir de corps en même temps. Nous, on est là, on connaît rien, mais voilà. Et pourquoi on peut parler? Parce qu'on a la même problématique, c'est accepter d'être là où on est, ici et maintenant. Et c'est ça qu'on a.
Alors là, on a toute la nuit pour en parler, hein, donc entre la voyance et la clairvoyance.
Oui,
il y a des médiums qui voient les corps.
Ah oui, 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 il n'y a pas de problème.
Donc, de désincarner. Donc,
ah
qu'est-ce
ben moi,
qu'ils voient?
C'est ce que je disais, à un moment, je les voyais tous du coin, enfin, je voyais du coin de l'œil, même les soucoupes volantes, enfin, mais j'arrête sur ce sujet. Je voyais, à un moment, je sors, je vois un gros bonhomme sur ma droite, je me tourne pour lui dire bonjour, il n'est plus là. Alors, comme j'ai les perceptions énergétiques, je teste l'énergie. Je dis, ah putain, ouais, entité négative, effectivement, comme il dit, les fantômes nous pompent un peu d'énergie hein, pour exister. Je teste, énergie négative, et puis il ne me lâche plus, le mec ne savait pas qu'il était mort. Mais.
Oui, mais il bon. Y a des voyants qui les voient réellement, comme je te vois
oui,
toi.
C'est, ben, c'est ce que je te dis, moi. C'est du ouais. coin, bon, c'était du coin de l'œil après. C'est vrai qu'après, il y a des gens qui voient sûrement du corps éthérique, ou qui arrivent carrément à. Parce qu'il y a la seconde vue hein, aussi, une vue d'énergie. Pour moi, c'est que du brouillard énergétique ou des champs magnétiques, mais il y a des gens qui arrivent à distinguer des formes éthériques dedans, à donner des formes hein, pour. C'est le mental hein, qui dit j'ai perçu telle énergie, je te la renvoie sous cette forme pour que tu saches ce que tu vois, hein, en gros. C'est ça, hein, c'est notre mental qui crée le monde de trois dimensions. Hein. Effectivement, les gens peuvent les voir, mais ces gens-là, ils ont des gros soucis.
Oui, c'est une anomalie.
C'est très difficile, c'est horrible hein, de voir les morts comme les vivants. Je veux vous dire que c'est super difficile de vivre sa vie, hein, parce que. Enfin. Il y a peu de différence en fin de compte. Hein. Vous avez la série Medium qui est issue de l'histoire vraie, hein, a priori. Mmh. Ce qu'elle décrit, c'est assez représentatif. Et ce que je disais, c'est la différence entre un clairvoyant et un médium, c'est un médium, il ne peut rien. Quoi. Il le vit.
Un médium qui voit.
Il va regarder. Quoi.
Donc un voyant, je ne parle pas du clairvoyant. Pour préciser, le voyant fonctionne sur ce chakra. Le clairvoyant fonctionne ici. Donc c'est deux domaines différents.
Alors il a monté le plexus en premier.
Oui, voilà, pardon. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas à la télévision. Coucou le welcome. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui, on va pas parler. Bon, attention, quand on utilise le mot médium avec Christophe, on n'utilise pas le mot voyante qui se fait. Bon, je sais que les voyantes sont des médiums. Des gens disent médium au lieu de dire voyante qui se fait payer. Non, médium, on va parler de cette possibilité de voir des choses, d'entendre et de voir des choses, souvent du passé ou même du futur. La personne qui est vraiment médium et qui n'est pas spirituellement élevée a une anomalie. C'est-à-dire qu'on est donc une poupée russe, il y a un corps matériel, un corps physique, qui est séparé du corps astral qui est le corps hors du temps, qui est séparé par ce qu'on appelle le corps énergétique. Donc, moi j'ai constaté, en aidant justement des médiums voyantes professionnels qui avaient de gros problèmes de santé, les deux étaient liés. C'est-à-dire que je me suis aperçu au toucher et à la vision, puisque j'ai cette possibilité de voir l'aura énergétique, qu'il y avait une fissure dans ce corps qu'on appelle le double du corps physique, qui est le corps énergétique ou corps éthérique. Donc il y a une fissure et cette fissure fait que cette personne a cette... C'est donc pas un don ou une faculté de Dieu, etc. C'est une anomalie. Et ces personnes-là, bien sûr, après vont en faire commerce, vont essayer d'aider les autres avec ça, ou alors différentes choses, ça c'est leur problème. Mais ce n'est pas un don spirituel, la voyance. C'est une anomalie, c'est-à-dire c'est une fissure dans le corps qui doit séparer le corps matériel de cette dimension du corps de l'autre dimension qui est hors du temps.
Pourquoi il y a des personnes qui ont cette fissure? Ben,
ce sont des anomalies qui des fois sont dues à un accident, qui sont dues à des maladies, qui sont dues à
drogue et alcool aussi,
à la ça. Drogue, j'allais dire drogue et alcool. Ouais. Attention, j'ai aidé une voyante très connue dans la région de Marseille, puisque bon, enfin, je veux pas dire c'était la grande voyante d'une grosse personnalité de Marseille. Je ne savais pas ce qu'elle avait. En lui faisant une harmonisation des chakras, en montant ma main de chaque côté à hauteur de cette hauteur du,
c'est vrai qu'on a parlé,
l'hauteur du plexus, l'énergie qui doit être à la verticale, j'ai senti toute son énergie qui était à l'horizontale.
Elle était coupée en deux.
Ouais, alors j'ai été étonné. Je me suis dit c'est pas possible. Je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit mais attendez, j'ai jamais senti une énergie à l'horizontale. Elle a soulevé son chemisier, elle m'a montré, elle avait une cicatrice.
Mais oui, c'est ça.
Voilà, elle a eu une opération de cancer du sein, elle avait une cicatrice. Donc elle perdait son énergie, c'est-à-dire son corps physique était cicatrisé, mais pas son corps énergétique. Donc si vous voulez, ça venait d'une intervention. Donc le corps physique cicatrisé, mais il était resté une fissure dans le corps énergétique. Ce corps énergétique connu des acupuncteurs, entre autres. Alors, je lui ai dit, écoutez, parce qu'elle avait, elle me dit, j'ai mon cancer qui recommence. Voilà, commence, et c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, je peux cicatriser cette fissure horizontale, mais attention.
Vous allez perdre vos pouvoirs.
Voilà, vous n'allez plus, et c'est une voyante professionnelle qui avait une fille à élever. Alors, j'ai dit, vous n'allez plus rien voir, il faudra faire semblant. Elle m'a dit, écoutez, Francis, je vous téléphonerai et je vous tiendrai au courant. Elle ne m'a jamais rappelé. Voilà.
Mais ce serait intéressant de savoir ce qui s'est passé.
Je suis pessimiste parce que si elle n'a pas cicatrisé ça, à mon avis, son cancer s'est développé.
Ok, mais c'est valable pour les césariennes. Hein,
oui, voilà, une simple opération de l'appendice. Hein.
C'est valable pour un appendice, il faut fermer. Il faut fermer.
Oui, la sphincter. Hein,
quand on a cette possibilité de voir l'aura énergétique des personnes, genre, en général, je mets la personne à 3-4 mètres sur un mur blanc, à ce moment-là, on peut même voir sur cette aura. J'essaie de me mettre en situation naturellement, là, d'ailleurs. Tiens, je vais regarder Adeline, ce sera plus intéressant. Ouais, nickel. On peut voir l'aura et on peut voir des endroits où il y a des fissures ou alors des faiblesses ou alors une couleur qui n'est pas très jolie. L'aura, en général, sur l'ensemble des individus, l'aura énergétique, hein, pas l'aura astrale, est de couleur bleutée, assez, ça bouge, c'est très vivant. Il m'est arrivé de voir à un endroit, à hauteur du poumon, je pense à une personne, de voir un trou dans cette aura, et la personne ne savait pas encore qu'elle avait un problème au poumon. Elle me l'a révélé quelques semaines après. Elle m'a dit, vous vous souvenez du trou à cet endroit-là? Et finalement, elle avait un début de cancer du poumon qui démarrait. Donc, si vous voulez, ça se répercute dans le corps. En dernier, ça se commence dans le corps énergétique et ça se répercute dans le corps physique. Si c'est une maladie émotionnelle, ça va commencer dans le corps émotionnel qui est le corps astral. Et si c'est récurrent, que la personne a toujours les mêmes émotions négatives, etc., ça va finir par percer le corps énergétique et arriver dans le corps physique. Voilà. On pourra en parler aussi. La maladie mentale va commencer dans le corps mental et ensuite, si c'est récurrent, etc., jusqu'au corps physique.
Christophe Alain, tu veux nous parler un peu de
Alors, bon, moi, je fonctionne pas comme lui. Hein,
pas de la même façon. C'est ça qui est intéressant.
Non, oui,
c'est,
je suis d'accord. Après, à certaines, à un moment, si vous voulez, les choses sont multidimensionnelles. On peut le regarder sous plein d'angles. Hein, voilà. Alors moi ce que j'aime bien c'est discuter hein, avec toutes les énergies, comme je dis, les blessures elles ont une conscience, elles racontent des choses, elles ont leur raison d'être aussi hein, c'est chaque fois je vais peut-être être désespérant, mais
tout
pour avoir vécu cette c'est malheureux, mais c'est sur soi-même ou sur les autres, si à un moment on est amené à discuter avec, quand même c'est qu'il y a une raison. Donc effectivement ça peut être pour faire évoluer la personne, évoluer soi-même, mais une blessure va enseigner quelque chose à la personne, toujours et toujours de la manière la plus efficace possible.
La raison d'être.
C'est ça qui est. Et le corps s'exprime comme ça. Le corps physique, lui, quand il veut qu'on arrête de marcher, il coupe les jambes. Hein. C'est aussi simple que ça. Quand il dit, mon gars, tu cours un peu trop partout, faudra arrêter de regarder l'extérieur et te tourner un peu vers l'intérieur. Eh ben, des gens, ils se retrouvent en chaise roulante. Et puis, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et le problème, c'est que quand on est mis face à ça, on le prend comme une fatalité, hein, quelque chose de difficile. C'est logique. Hein, on le vit comme ça dans la matière, c'est réel. Hein. Pour nous, c'est une vraie souffrance. Hein. Mais derrière ça, il y a une raison profonde d'évolution. Et quand je dis évoluer, c'est se prendre un mur, souvent. C'est vraiment ça. Hein. On nous met face à un mur. Hein. On dit, vas-y, fais ton truc, tu vas voir. Hein. Bon, on y va. Hein, et puis, on se prend plein la gueule. Et à la fin, effectivement, j'ai compris la leçon. Mais et bon, se prendre un mur, c'est peut-être plus simple. Voilà.
Alors, tu dis que si on court un peu trop vite, on peut se retrouver dans une chaise roulante. Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont handicapés.
Oui, je
voilà.
Je dis pas si on court un peu trop vite. Les raisons sont multiples. Mais par exemple, on peut trouver ce genre de... ce qu'il faut voir, c'est que si on a un handicap, c'est qu'on peut voir les choses soit par la peur, soit par l'amour, toujours. Quand on a un handicap, quand on ferme une porte, on ouvre une autre porte. Soit on focalise sur la porte fermée, soit on cherche la porte qui s'est ouverte. C'est toujours comme ça. Et c'est difficile à dire comme ça. Moi, ma nature au départ, c'est autiste. Hein. Je peux pas parler je peux parler depuis que j'ai 30 ans à peu près avec les gens librement. J'étais informaticien. Hein. Donc pourquoi est-ce que j'entends tout hein? Parce que j'ai fermé. Je pouvais pas parler avec les humains. Tous les centres ils se sont ouverts hein, pour parler avec les autres. Hein. Ça servait à quoi cette expérience? Ça a été très dur. Hein. Je devais faire semblant d'être normal. Donc parce que c'était ce que m'avait dit ma mère à un moment. Donc qu'est-ce que je faisais? Ben j'utilisais mes perceptions. J'allais chercher les réponses ailleurs. Puis j'ai dû vivre. En structurant l'humain, c'est en partant de choses qui sont... Parce que l'autisme, vous ne structurez pas d'individualité, donc vous êtes plutôt un peu l'univers au départ. Hein. Donc vous accédez à énormément de choses, mais en même temps, l'humain, c'est quelque chose qui est très difficile. Et puis, vous avez toutes les peurs. Pourquoi? Parce que après on comprend que les peurs, c'est un labyrinthe qui nous permet de borner un peu l'expérience. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais vous retrouvez avec toutes les peurs. Et puis, dépasser ça, ça veut dire à un moment donné, accepter... Quand je vous dis que j'ai eu des trucs radicaux, c'est parce que... parce qu'au départ, j'ai un problème radical aussi. Hein, donc... Et le régler, c'est accepter de dire, je vois ce que ça m'a amené et j'utilise les outils que j'ai. Voilà. Et ce qu'il y a à vivre, c'est ça. Et à force d'évoluer, comme je dis, moi, mon plus grosse difficulté, c'est de rentrer dans l'humain, d'accepter d'être là. Quand je dis que c'est le problème du fantôme et du médium, je sais de quoi je parle. Moi, mon problème, c'est que je suis pas ici maintenant, j'accepte pas ni cette forme, ni ce corps. Et je suis obligé de petit à petit de rentrer dedans. Comme le monde évolue beaucoup, ça m'arrange bien parce que c'est plus facile. Parce qu'au départ, j'ai essayé de m'incarner, mais c'était trop dur. C'était trop dense pour moi la matière. Donc voilà. Voilà. Bon, ce que je vous dis, c'est du vécu. Aujourd'hui encore, c'est plus facile pour moi d'être dans les énergies de la pièce que de dire je vais dans mon corps et puis j'accepte d'être humain. Point barre, quoi. Parce que c'est ce que j'ai à vivre ici et maintenant et point. Voilà. Donc alors, ça a été un très long cheminement pour arriver là.
Cette nuit, on lira quelques passages du livre pour que les auditeurs, les auditrices puissent se rendre compte que peut-être que son écriture, elle est plus facile d'accès que la façon dont il en parle. Parce que
c'est
un peu difficile. Tu vois, on rentre.
Oui. Voilà. Effectivement, c'est possible.
Ça, c'est pointu.
Voilà, c'est très pointu, mais c'est écrit à un niveau où tout le monde peut comprendre, avec beaucoup d'humour. Mais je comprends mieux maintenant, parce que tu parles d'autisme, etc. Ouais. Je crois que ton ami Francis Bourchier a pris des notes.
Non, il y a une phrase que j'aime bien, qui n'est pas de moi, qui est de Donald Walsh. Je le prononce peut-être mal. J'adore cette phrase. Elle est devenue... Il y a Adeline qui hoche la tête parce qu'elle sait que sur mon blog, sur les forums, je note à chaque fois cette phrase. C'est nous ne sommes pas des êtres... Pardon, il me l'a... D'accord. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant plus ou moins une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant complètement une expérience humaine. Ça semble être simplement une jolie phrase, mais elle est profonde, elle est fabuleuse. Voilà.
Mais comme on en parlait dans le train, au fur et à mesure, le regard s'inverse quand on travaille à évoluer. Et à un moment, on s'aperçoit que le plus réel, c'est l'abstrait.
Oui.
Les intentions descendent du divin, partent de la vacuité, elles s'incarnent. Puis à un moment, elles vivent leur vie, puis elles remontent. Et nous, qu'est-ce qu'on est ? On est une intention du divin qui s'est incarnée. Et on observe, en fait, cette intention, tout simplement. Et on vit à travers elle.
Et tu sais qu'il est merveilleux, ton livre, qui donne vraiment beaucoup de... Quand plus on avance dedans et plus on se rend compte de plein de choses. C'est-à-dire, quand tu me dis tout à l'heure que tu n'arrives pas encore à être dans ton corps, quand j'entends ce que tu me dis tout à l'heure, que tu n'arrives pas encore à être incarné, à te sentir
dans
ton corps...
C'est mon plus grand challenge, mais j'y arrive de plus en plus.
J'arrive pas à comprendre avec tout ce que tu as vécu, quoi, que tu n'as pas encore compris l'histoire.
Non, c'est pas de comprendre, c'est de le vivre. Parce que tout ce que je décris dans mon livre, c'est une étape de nettoyage vers le haut, de connexion du ciel.
Ah, mais tu en demandes peut-être un peu trop, il est où le ciel pour toi ?
À la connexion du ciel, le ciel, il n'est pas là.
Il n'est pas si loin.
Oui, on est bien d'accord. Mmh. Mais c'est un nettoyage. Alors, comme je l'ai expliqué, si tu veux, je l'explique autrement. On a trois, comme disent les bouddhistes, on a
les trois gouttes,
la goutte blanche, la goutte rouge et la goutte indestructible.
Ça sera pour la nuit.
Ici, c'est la vérité des nœuds d'objets. Ici, c'est la jouissance des nœuds d'objets. Et quand les deux sont connectés, là, on peut avoir l'amour des nœuds d'objets, donc l'amour inconditionnel. Moi, j'ai travaillé la vérité des nœuds d'objets pendant longtemps, donc j'accède à beaucoup d'informations, mais j'essaie de connecter le ciel, le monde spirituel. À un moment, il faut connecter aussi la jouissance des nœuds d'objets, ce qui est très sympa aussi, je vous confirme. quand on parle d'extase mystique et tout, on dans ces notions, mais on connecte la Terre pour
ça. Jouissance, c'est vaste, jouissance. Le mot jouissance,
c'est très vaste, et c'est des jouissances.
Joël, il faut pas rigoler comme ça devant le micro.
Pourquoi?
Puis il y a une notion de sexualité, il faut dire ce qu'il y a. La matière, ça passe par la sexualité. Et on connecte donc la Terre quand on passe par là. Et c'est quand ces deux connexions sont faites qu'on peut commencer à ouvrir le cœur. Donc il faut les deux. Et le problème de tous les channels, c'est ce que j'expliquais un peu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le haut. Mais l'humain, il est fait pour unir la terre et le ciel. Et si le cœur, si tu ouvres trop le haut et que tu es pas assez enraciné en bas, donc dans la matière, le cœur, il se décale. Et ça fait des gens qui parlent d'amour parce qu'on leur parle d'amour. Quand on parle avec des êtres spirituels, il n'y a que de l'humour, il n'y a que de l'amour. Mais ils ne peuvent pas le vivre parce que le cœur, de toute façon, il est décalé. Et ça fait des gens, le moindre mot, ils sortent la torche.
Ils vont être channel tout au long de leur vie. Pendant toute leur incarnation, ils vont être channel.
À un moment, il faut.
Ils ne vont pas évoluer vers autre chose.
Il ne faut pas être si radical. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, quand même, c'est une expérience qu'il faut dépasser. Et l'expérience qu'on vit aujourd'hui.
Oui, il faut la dépasser.
On est dans la phase des faux prophètes. C'est fait pourquoi ? C'est les guides. Les guides, les machins, ils sont là pour nous dire, les gars, tournez-vous vers vous. Donc qu'est-ce qu'ils font ? On va vous raconter des conneries de plus en plus grosses. Et quand vous en aurez marre d'écouter des conneries, vous allez vous tourner vers vous, vers votre centre, et puis vous allez connecter un peu votre part divine à vous. Quand ils parlent de maître intérieur, c'est on se retourne vers soi. Et c'est la démarche qu'on a fait au début tous les deux.
Mais oui, mais pourquoi avec tout ce que tu as écrit dans ton livre, tu n'arrives pas à dire que tu l'acceptes tel qu'il est ton corps maintenant ? Qu'est-ce que tu cherches encore ? Ce sera pour on n'a pas assez le temps de développer.
Tu poses
une
question très vaste.
On n'aura pas le temps.
D'accord.
Mais on a toute la nuit.
On
y reviendra parce que c'est quand même étonnant quand on a lu ton livre et qu'on voit jusqu'où tu peux amener quand on lit ce livre de se dire que tu as encore une souffrance.
Le problème, c'est que j'ai des souvenirs de corps beaucoup plus évolués et c'est problématique.
Voilà. Oui, mais c'est bon.
Je te donne un peu une idée, mais... Voilà. Des expériences pas très humaines qui font que l'humain, c'est chiant de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce corps qui fait pas ce que je veux quand je veux, ça ne va pas, qui change pas de dimension à volonté. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est des souvenirs. Quand je te dis, tu connectes des choses, bon, des fois, tu les mets un peu en plan parce que tu dis, hein, sinon, tu t'en sors pas, quoi. Mais c'est ce genre de choses, bon, qui pose
Francis,
problème.
Parce que là, on va se... Il est 23, là, j'ai 25. Voilà, parce qu'on va bientôt finir l'émission. Donc, le blog, ton blog à Francis Bourcher qui a écrit « Accepter de s'éveiller, rencontre avec son maître intérieur ». Un livre qui est axé sur des expériences aussi. Sur des
expériences vécues, expériences et réflexions spirituelles.
Et des petits exercices de neuroéthique.
Oui, des petits exercices, voilà, pour éventuellement voir le prana dans un premier temps. Et ensuite, voir l'aura énergétique, qui, à mon avis, est accessible à tout le monde, même si on n'a pas une grande évolution spirituelle. Même si on n'est pas à une grande étape spirituelle, je préfère m'exprimer comme ça.
Et ton blog ?
Blog, astralblogué.com, voilà, je n'ai pas le truc exact, c'est là d'ailleurs.
Mais si vous allez sur le site de la radio, j'ai dû le marquer, si vous tapez oui, sur lundi, 21h, et j'ai marqué le blog.
Astralblogué.com, astral.blogué.com, blogué EZ, voilà.
D'accord, voilà, et
toi, tu es un blog.
Le oui, journal d'un éveil du troisième œil de Christophe Alain avec deux Alain, Alain.
Ouais.
90 expériences d'un autodidacte du spirituel. T'as plus de blog, toi, tu l'as laissé tomber.
Alors, c'est pas que j'ai laissé tomber, je l'ai laissé en ligne parce que je pense que j'en ai assez dit. Ça va occuper les gens suffisamment longtemps, je pense. Enfin, mon but, c'était que des gens qui ont ces expériences puissent les retrouver dans le blog. Et je pense qu'il y a un tel panel maintenant que c'est suffisant. Et aujourd'hui, mon travail est plus sur la connexion de la Terre et on rentre dans des choses qui sont pas faciles à dire en grand public. Alors quand je dis que le reste est facile à dire en grand public, ça vous donne une idée. Parce que là, on parle de la Terre et il y a beaucoup de blessures émotionnelles, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles, des histoires, l'histoire de l'humanité, hein, et qu'il faut aller un peu nettoyer pour qu'on puisse enraciner la Terre avec autant de puissance que le ciel, voilà.
Alors en vérité, il y en a 98 expériences.
Et voilà, sur mon blog, il y en a 300 ou 400, je crois, à peu près. Je me suis dit, là, je peux m'arrêter parce que sinon...
Il y a Jacques qui est content.
Surtout au niveau du sans-forme, après, je pense que ça devient compliqué.
Ça fait le bonheur de l'éditeur.
Voilà, bref.
Il y a au moins 3 ou 4 tomes, là.
Voilà, donc, et Christelle qui était avec nous ce soir. Et j'espère qu'un jour, on fera une nuit ufologie ou avec des nouveautés, tout en sachant que c'est pas franchement... Moi, je pourrais pas trop... c'est pas trop mon domaine, donc... Il faudra que vous trouviez les bonnes questions, etc. C'est pas vraiment un... Bon, et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission ? On a une minute. On pourrait se dire bonsoir, quitte à se retrouver dans une heure et demie.
Oui, ben, voilà, bonsoir à tous. Alors, je crois en une minute, oh là là, comment on va faire pour dire juste un truc en une minute. Bon, en tout cas, moi j'ai été ravi de participer à cette émission, puisque je n'avais jamais fait de radio avant. Et puis c'est l'occasion de se rencontrer, comme je disais, donc c'est très sympa. Voilà.
Je pense qu'on va essayer de collaborer un peu ensemble, justement de mettre en commun nos possibilités. Et à ce moment-là, on vous tiendra au courant de nos expériences, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à faire ensemble.
Christelle,
voilà. Rejoignez-nous donc tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui.
Voilà.